Élève ta voix maintenant et parle à ton Dieu. Demande au Seigneur que ces moments que tu passes dans sa présence soient des moments bénis, moments durant lesquels il va te faire beaucoup de bien. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a amené en ces lieux, en ces jours de pluie. Tu as bravé la pluie, c'est parce que tu viens les rencontrer. Lui qui nous attend, t'aimer au point de s'offrir pour nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer et te dire merci. Merci parce que chaque jour est un jour nouveau, mais jour qui est déjà connu de toi, Seigneur mon Dieu, jour durant lequel toi, Seigneur mon Dieu, tu vas encore cheminer avec nous, jour, Seigneur, durant lequel, Père, tu vas nous accorder encore ta bénédiction. Merci pour ta grâce et merci pour ce dimanche matin. Merci de nous rassembler, Seigneur, en ces lieux, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, non seulement t'écouter, mais te parler aussi, afin que tu puisses nous faire du bien. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de chacun de nous, et permets que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, et disponibles pour recevoir de toi instruction, Seigneur, et enseignement, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, pratiquer cela dans nos vies. Bénis, Seigneur mon Dieu, ces instants, fais du bien à chacun de nous. Seigneur, nous voulons prier pour tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu atteindre ces lieux. Tu connais notre condition, Seigneur. Tu connais tout ce qui se passe dans cette ville. Seigneur, nous prions pour que toi seul, tu viennes au secours de chacun. Nous prions pour que toi seul, tu puisses faciliter la tâche, Seigneur, à ceux qui sont encore en route. Seigneur, mon Dieu, même ceux qui sont dans les maisons, ceux qui ont quelques problèmes, Père, viens au secours. Prends soin, Seigneur, et glorifie ton nom. Et nous qui sommes déjà là, Seigneur, mon Dieu, bénis-nous au travers de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Même à tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur, fais du bien. Et que, Seigneur, mon Dieu, ces instants servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé. J'ai envie de dire, comme je l'ai dit mercredi, est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes tellement éparpillés. On est en famille. S'il vous plaît, on est tellement éparpillés, ça fait... S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes derrière et qui avancez, merci vraiment. Il y a suffisamment de place, mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu est tellement bon pour nous. Et lorsque nous nous retrouvons comme ça, ça fait du bien. Cette chaleur-là, ça fait du bien. Et Dieu nous bénit au travers d'elle. Nous allons prendre quelques versets bibliques qui nous permettront de tirer notre thème de ce matin. Je vais commencer avec Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, nous allons lire des 6 à 8, du verset 6 à 8. Galates chapitre 6, la Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et bien aimé, d'emblée, j'aimerais dire ceci. Je prends le verset 6. Il nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, j'essaie de revoir déjà mon contexte ici, que j'aimerais que vous puissiez déjà savoir. Mon contexte ici, on parle de la personne à qui on enseigne. Hein? Mais maintenant, cette personne-là doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, il donne l'information de ce qu'il a à celui qui l'enseigne. C'est ça le contexte de ce qui suit. Alors, ce qui suit dit maintenant, ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit faire part. Est-ce qu'il va dire toute la vérité? Est-ce qu'il va tout dire? C'est compliqué, hein? C'est là où la Bible ajoute maintenant, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. J'aimerais que nous puissions continuer, parce que là on a vu ce contexte-là. Parce que la même pensée revient aussi et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je suis dans Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11 et le verset 18. Proverbes chapitre 11, le verset 18, la Bible dit, « Les méchants font un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Donc, les méchants, lui, ce qu'il fait là dans sa méchanceté, c'est un gain qui est trompeur. Celui qui sème pour la justice aura un salaire véritable. Osée chapitre 10, verset 13. Osée 10, 13, la Bible dit, « Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. » Donc, tu as fait tout un travail, cultivé le mal, tu as moissonné l'iniquité et tu manges le fruit du mensonge. Donc, tu as semé, tu as récolté. Je viens dans le Nouveau Testament, donc, les passages de Luc 6, 38, et c'est lui que nous avons lu au début, Luc 6, 38, la Bible dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Encore une fois, tu fais quelque chose, tu auras en retour. Là, c'est la loi de la semence. Mais les textes, les quelques versets que nous venons de lire, pourquoi j'ai souhaité que nous puissions les lire? Parce que ces versets, bien que les contextes soient différents, hein, parce qu'ici on parle de donner l'argent, là-bas on a parlé de planter, bien que les contextes soient différents, mais les principes que nous pouvons tirer de tous ces versets restent les mêmes. De tous ces versets, les principes sont les mêmes. Quel est le principe? C'est tout simplement faire ce qui est juste, ce que Dieu demande. Ou encore, quel est le principe? S'aimer ce qu'il faut s'aimer pour récolter la bonne récolte. Vous voyez? Il faut s'aimer ce qu'il faut s'aimer dans le contexte dans lequel tu te trouves pour pouvoir avoir une bonne récolte. Et là, je reviens dans Galates. Galates nous a dit ceci. On ne se trompe pas. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que toi tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. C'est ce que Galates nous a dit. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Et c'est ça qui m'amène à nous proposer comme thème ce matin. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La tendance que nous avons naturellement en tant qu'humains, c'est s'aimer n'importe quoi, mais récolter les bonnes choses. Qui n'aime pas la bénédiction? Tous ici, nous aimons la bénédiction. Tous ici, nous nous attendons à la bénédiction. Mais est-ce que nous veillons sur ce que nous sèmons pour savoir ce que nous allons récolter? En général, nous ne faisons pas attention à cela. C'est là où je veux vous proposer juste deux petits points. La première chose que j'aimerais que nous puissions voir ensemble, quelles sont les raisons qui me poussent moi, hein, ou quelles sont ces choses qui me poussent moi à ne pas s'aimer ce qu'il faut et qui me montrent que je me moque moi de Dieu. Quelles sont ces choses? C'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Les raisons, hein, pour lesquelles moi là, je ne dois pas me moquer de Dieu. Je dois faire attention à ce que je fais. Et j'ai quelques-unes. Sûrement la liste ne sera pas exhaustive, mais à vous de voir. Qu'est-ce que je peux ajouter selon moi? Première raison que je nous propose, c'est l'intérêt. J'ai ajouté à l'intérêt, j'ai ajouté l'égocentrisme, le moi. Moi, moi, regarde-moi, fais pour moi. J'ai ajouté les plaisirs, parce que tout ça c'est sur la personne, c'est sur moi. Pourquoi je sème comme ça? Parce que mon intérêt en dépend. Mon moi en dépend. Mon plaisir en dépend. Ouais. Pourquoi? Parce que, justement, j'essaie de faire tout pour que moi je puisse me réjouir. Alors, j'ai pris quelques exemples
et dans la Bible et dans la vie courante, je vais essayer de mélanger. Dans la Bible, j'étais en train de penser à l'histoire de David et Bathsheba. L'histoire de David et Bathsheba, c'était pratiquement inconnu de l'entourage, mais connu de Dieu. David, qu'est-ce que tu as semé? Quand tu es parti prendre Bathsheba, la femme de quelqu'un d'autre, David, qu'est-ce que tu es en train de semer? Oh, quelqu'un va me dire, mais est-ce que ça c'est une semence? J'aimerais nous dire, tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, tous les jours qui passent ici, ce sont des semences pour lesquelles nous récoltons. Malheureusement, les jours où nous récoltons, nous avons oublié même quelle était la semence que nous avons mise en terre. Malheureusement. David, mais maintenant c'est quoi? Oui, mais c'est pour mon plaisir. J'ai vu cette femme, elle m'intéresse. Hein? Je vais quand même me faire plaisir, non? C'est mon intérêt. Et il a utilisé tous les moyens que nous connaissons, parce que c'est une histoire que nous connaissons, je n'aimerais pas revenir sur ça. Les gens ne savaient même pas, à part les personnes qu'il avait envoyées, et peut-être quelques personnes dans sa maison, mais la majorité n'était même pas au courant de la situation. Oh, des fois c'est ce que nous faisons, parce que nous voulons nous faire plaisir. Mais ce que nous disons, personne n'a vu, mais nous oublions que Dieu a vu. Bien-aimé, j'étais en train de considérer aussi l'histoire de Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote, lui, il avait bien les sacs ou la caisse avec lui. Oh, Judas, mais personne ne vient te contrôler, Judas. Oui, effectivement, personne ne me contrôle. Judas, personne n'est au courant, on ne sait même pas t'y arriver à combien. Oui, effectivement, Judas était conscient de tout ça. Et l'argent, on mettait, Judas mettait, pour Judas, il mettait, et personne ne savait quand est-ce que ça sortait. Mais Dieu voit tout. Nous connaissons tous que Jésus a interpellé Judas d'une façon gentille. Mais Judas n'a pas compris. Il y a eu l'histoire de la femme qui a cassé les vases de parfums. Judas était interpellé. Judas s'est dit, oh, puisqu'il n'a pas parlé argent comme tel, il n'a pas dit les choses comme telles, donc il ne connaît pas, il n'a pas compris. Bien-aimé, vous savez que des fois, c'est ma part, hein, par respect seulement, on n'aime pas dire certaines choses. On s'est dit, non, hein, soyons gentils, nous sommes chrétiens. Judas n'a pas compris cette réalité. Jésus l'a interpellé. C'est lui qui met la main avec moi dans l'assiette ici. C'est celui qui va me trahir. Judas était là, il avait entendu, n'est-ce pas? Oh, combien de fois nous entendons la parole de Dieu, nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Qu'est-ce que tu sèmes? Judas a continué son travail. Parce que pour lui, malheureusement, lorsque nous avons quelque chose en vue, nous tenons à la chose. Même lorsque Dieu va nous dire, arrête, ne fais pas. Tellement il parle vraiment avec une voix là, on se dit, non, c'est pas Dieu qui parle. On aimerait entendre Dieu dire, arrête. Mais il ne dira jamais ça comme ça. Lui va te dire tout doucement, ne fais pas ça, c'est pas juste, c'est pas bon. Souviens-toi de la Bible. Mais souvent, nous nous opposons à cela. Frères, sœurs, je ne sais pas comment toi tu marches avec Dieu. Mais la Bible va nous dire, ton péché t'atteindra. Que tu le veuilles ou pas, que tu le fasses voir ou pas, que tu crois que tu fais tout en cachette. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Mais Dieu dans son amour, il nous interpelle toujours. Lorsque nous venons nous asseoir comme ça, ce sont des interpellations que Dieu nous fait. Dieu nous interpelle, Dieu nous rappelle toujours sur le droit chemin. Mais est-ce que nous écoutons? Attention, tu es en train de mal s'aimer. Attention, mais souvent nous nous regardons à ce que nous faisons. J'étais en train de réfléchir, toujours avec les mots. Je me souviens et je sais, nous le savons tous. Nous prions des fois ici pour que le Seigneur donne du travail aux gens. N'est-ce pas que nous le faisons? Quand j'ai dit ici, c'est une façon de parler, mais nous prions pour que le Seigneur donne du travail, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque la personne maintenant a un travail? Qu'est-ce qui arrive? Avant d'avoir le travail, priez pour moi, priez, nous prions. Et même la personne elle-même, elle va prier, elle va gêner, elle va chercher Dieu, elle va tout faire. Et maintenant, lorsque la personne a du travail, vous commencez à vous demander, c'était un vrai chrétien ou pas? Parce qu'avant le travail, il était tout le temps dans la présence de Dieu. Mais après avoir obtenu le travail, est-ce que vous avez vu combien c'est difficile de quitter la ville jusqu'ici? Je vous assure, ce n'est pas facile. Mon emploi du temps. On commence à donner toutes sortes d'explications. C'est bien, c'est beau. Mais on oublie une chose. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Lorsque nous nous éloignons de Dieu, un pas seulement en arrière, l'ennemi en profite pour te faire trois. C'est là où nous devons savoir qu'est-ce que tu sèmes. Nous sommes en train de prier, nous prions. Nous avons la chose que nous désirons. Avant de trouver le travail, moi là, quand j'aurai du travail, la dîme, je veux être très régulier. Mais maintenant, quand il y a le travail, tu regardes l'argent. Moi, je veux les enrichir. Non. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est pour moi. Et d'ailleurs, j'ai des besoins. Et les besoins, ça ne finira jamais. On en aura toujours. Et Dieu peut t'aider même à avoir des besoins. Qu'est-ce que tu sèmes? Lorsque tu commences à expliquer à Dieu tes choses. Bien-aimés, nous prions pour avoir des enfants. On a l'enfant et on commence à rester à la maison en disant, je vais venir à l'église avec ces bébés qui me dérangent. Je n'arrive pas. Mais le bébé là doit apprendre à aller à l'église. Comment il va apprendre? On commence à expliquer. Tout le temps, je n'ai pas dormi la nuit. Je n'ai pas fait. Oh Dieu, aie pitié de nous. Nous nous justifions, nous expliquons. Reste à savoir si Dieu est d'accord avec nous. Mais c'est que moi je sais. Dieu n'est d'accord qu'avec sa parole. L'obéissance à sa parole, c'est ça que Dieu agrée. Pourquoi nous faisons tout pour nous? Nous pensons à nous. Il est arrivé des fois où on est obligé de prendre même ce qui est à autrui. On prend, que ce soit en termes d'argent, en temps, en bien, on prend ce qui est à autrui. Tout ça, on est enfant de Dieu. Mais on prend ce qui est à autrui. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous sommes en train de s'aimer? Au jour d'aujourd'hui, dans notre pays ici particulièrement, il y a des choses que nous vivons, des choses qui nous arrivent à cause de ces comportements. Et quand on les fait tellement en toute douceur, au point qu'on ne se rend même pas compte que c'est mauvais ce que nous sommes en train de faire. On n'a même qu'à dire ou pas de respect pour ce qui est public. Non, il n'y en a pas. Mais c'est toute une semence. C'est toute une semence que nous sommes en train de faire. Demain, nous récoltons. Et la récolte, bien aimé, vous savez, tu as planté une seule graine. Hein? Quand tu vas récolter combien? Une seule graine que tu as plantée, mais la récolte, elle est énorme. C'est pour ça, bien aimé, faisons attention. Que dire des factures? On les gonfle à tort et à travers. Parce qu'il y a mon intérêt dedans. Oui. Il y a mon intérêt. Le comble, c'est que et l'acheteur et le vendeur, tous deux sont en train de s'aimer. Parce que l'acheteur va venir, le vendeur, par exemple, des fois lui fait la proposition. Ou c'est l'acheteur qui fait la demande. Ils s'entendent. L'un devient complice de l'autre. Et maintenant, nous s'aimons. Et quand je sème comme ça, je vais récolter ce que j'ai sémé. Bien-aimés, nous devons faire attention. À part l'intérêt, à part le plaisir et tout, une autre raison, c'est le fait que nous voulons faire comme tout le monde. Parce que tout le monde fait, moi aussi j'ai fait. Mais qui nous dit que ce que tout le monde fait, c'est ce qui est bien? Qui nous dit ça? Nous sommes juges nous-mêmes de toutes ces choses qui se passent pour savoir faire un choix. Et on nous a dit encore ici, les choix, c'est chacun de nous qui devrait les faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi les choix. Nous faisons des choses parce que tout le monde fait. Non, tout le monde peut s'habiller n'importe comment, tout le monde peut se coiffer n'importe comment, tout le monde peut danser n'importe comment. Si moi ça n'honore pas mon Dieu, je ne le fais pas. Vous savez les systèmes de copier-coller là, hein? Les systèmes de copier-coller. Vous avez déjà remarqué, tu as copié, tu as collé. Mais quand tu commences à relire, tu vois que ce que tu as collé là, peut-être tu l'as mal collé. Ça vous est déjà arrivé? Et des fois même tu as déjà envoyé la lettre. Attention, Ananias et Saphira, ce qui leur est arrivé, c'était quoi? Ils ont vécu à l'époque où on mettait tous les biens ensemble. Et aussi, ils ont dit, nous aussi, nous allons vendre, nous allons faire comme tout le monde. Et ils sont partis faire comme tout le monde. Mais malheureusement, en copier-coller, ils ont omis une chose. Et ils sont partis s'entendre en tant que couple pour savoir comment est-ce que nous allons tripoter. Et les autres venaient avec tout. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, qu'est-ce que toi, tu sèmes? Une autre raison, c'est la pression de la société, la pression de nos besoins. Cette pression-là, bien-aimés, la pression, des fois, elle ne vient pas comme quelque chose que nous sentons, que nous voyons. Elle est des fois invisible. Elle est des fois, donc, on ne sait pas, des fois ce sont les gens qui parlent, des fois ce sont certaines circonstances de la vie qui nous font pression. Donc cette pression-là aussi, ça nous pousse des fois à mal s'aimer. En tant qu'enfant de Dieu, la pression de la société, la pression de la vie, la pression des situations que nous rencontrons ne peut plus avoir les dessus sur nous en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, lorsque Satan s'est présenté à Ève, il a utilisé la ruse. Il a essayé de détourner un peu ce que Dieu a dit. Est-ce que tu crois qu'il a été dit vraiment? De la même façon, Satan s'est présenté à Ève. Lorsque nous venons aussi dans Matthieu, c'est de la même façon qu'il s'est présenté à Jésus, en utilisant la ruse, en essayant de détourner un peu la parole de Dieu. Et de la même façon, il continue à nous faire aussi pression jusqu'à aujourd'hui. De la même façon, bien-aimés, le monde aussi nous propose des choses. Des fois, elles sont tellement alléchantes et qu'on ne se rend même pas compte lorsqu'on se retrouve déjà dedans. Qu'est-ce que tu sèmes? Parce que tu dois savoir qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que tu sèmes? Tout ce qui nous est donné sur un plateau en or, tout ce qu'on nous fait voir avec beaucoup de lumière et d'éclat, ce n'est pas nécessairement ça qui est bon. Malheureusement, puisque les yeux aiment la lumière, on se sent attiré vers ce genre de choses. Frères, sœurs, nous devons apprendre à nous discipliner. Nous devons apprendre à faire la part des choses. Nous devons savoir qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire ou je dois prendre. Une autre raison, c'est tout simplement la désobéissance. La désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas, une histoire que nous connaissons, Dieu lui dit, va à Ninive, tu as un travail à faire là-bas. La Bible nous dit, Jonas part à Tarsis. Frère, sœur, Dieu a les moyens de sa politique. Et si Dieu veut te bloquer dans une situation parce qu'il ne te veut pas sur cette voie-là, Dieu est capable de le faire. Il va seulement ouvrir la gueule du poisson. Bien-aimé dans les Seigneurs, je me posais la question, alors que j'étais en train de réfléchir à toutes ces choses, si la terre s'ouvrait aujourd'hui, combien de personnes ne vivraient plus? Engloutis vivants, combien? À cause seulement de ce que nous faisons. On s'est dit être chrétien, mais ce que je fais, ne prouve pas que je suis chrétien. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se moquer de Dieu? Pourquoi ces choses que j'ai énumérées juste comme ça, hein, que j'ai énumérées juste comme ça, et la liste, j'ai dit, elle n'est pas exhaustive. Bien-aimé, pourquoi ces choses nous poussent à nous moquer de Dieu? Et on, normalement, on ne doit pas les faire. Il nous a montré la voie, nous devons suivre la voie et pas faire le contraire. Vous n'avez qu'à comparer Dieu avec nos parents terrestres. La première chose, pourquoi je ne dois pas me moquer de Dieu? Bien-aimé, pourquoi tu ne dois pas te moquer de Dieu? La première chose, le souffle que tu as, c'est son souffle. Le souffle que tu as, c'est ce qui a permis que tu te réveilles ce matin, que tu sois en train de respirer, que tu puisses marcher, ce n'est pas à toi. Maintenant, écoutez ce que Proverbe 20, 27 nous dit. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle là que toi tu as seulement, c'est la lampe de l'Éternel. Et cette lampe pénètre jusqu'au fond de tes entrailles, cette lampe-là. Et si cette lampe pénètre jusqu'au fond de tes entrailles, qu'est-ce qu'elle voit la lampe? Qu'est-ce qu'elle voit? Sinon toute ta vie. Job 33, 4 ajoute, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc si tu es là, si tu marches, c'est là où nous pouvons constater la bonté et l'amour de notre Dieu. Parce qu'il a donné la même chose aux païens avec la possibilité qu'eux aussi se convertissent. Vous voyez? Le souffle là que tu as, ce qui t'anime là, ce qui fait que hein, tu sois là, que je puisse parler, que je puisse faire ce que je fais, bien aimé, c'est parce que justement, son souffle là m'anime. Le souffle de l'Éternel m'anime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Et si son souffle t'anime, si son souffle est en toi, est-ce que tu peux réaliser que tu es obligé de marcher selon celui qui t'a donné le souffle? Si nos parents terrestres, mon père, me dit dans ma maison, on marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que je fais? J'obéis ou je n'obéis pas? Si nous pouvons obéir à nos parents que nous voyons, obéissons à celui que nous ne voyons pas, parce que lui, il est plus que nos parents terrestres. Bien-aimé, toujours parlant du souffle, à cause de ça, ça me fait dire aussi que Dieu a les derniers mots sur ta vie, sur ma vie. Dieu a les derniers mots, parce que c'est son souffle. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas aussi retirer ce souffle-là si ce n'est pas encore temps, selon lui. Et c'est comme ça que nous voyons des gens, ils peuvent être dans des maladies graves, bizarres, et ils se relèvent. Et vous voyez une autre personne, une petite malaria, vous vous demandez, ah, ça l'a emporté. Même lorsque les sorciers de la famille vont se réunir pour peut-être te prendre ou quoi, si ce n'est pas encore autorisé par Dieu, ils pourront tout faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Job 12, 10, dit ceci. Il tient, donc il parle, ça parle de Dieu, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu tient ça dans sa main. Est-ce que tu peux réaliser, tel que tu es assis ici, ton souffle là, c'est dans la main de Dieu. Tu peux réaliser ça. Ton souffle, c'est dans la main de Dieu. Si tu réalises ces choses, bien aimé, ta façon même de marcher dans ce monde, normalement, doit changer. Psaume 104, 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Si Dieu seulement fait ça, c'est fini. C'est fini. Pourquoi ne pas le craindre lui? Pourquoi ne pas marcher avec lui et selon lui? Psaume 146, 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Tous les programmes que tu fais là, tous tes projets que tu as, si tu ne marches pas en accord avec les propriétaires de ton souffle, bien-aimé, tu risques de te retrouver un jour avec beaucoup de très bonnes idées. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Mais maintenant, pourquoi encore? Moi, je ne dois pas me moquer de Dieu. Non seulement j'ai son souffle, mais parce que tout est à découvert devant lui. Tout. Même lorsque moi je vais croire que je suis caché dans un endroit où personne même ne me voit. Même lorsque moi je vais croire que, en tout cas, là où je suis très bien protégé. Bien aimé, Dieu voit tout et il voit partout. Il n'y a rien de caché devant lui. Rien. Que tu sois dans la salle de bain, que tu sois même dans la chambre couchée, que tu sois en train de t'échanger, que tu sois dans n'importe quel endroit, Dieu voit. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas lui cacher? Dieu voit. Vous pouvez lire Proverbe 15, 3. Dans Jean 1, 47 à 48, il dit ceci à Nathanaël. Il dit, il parle à Nathanaël, je vais paraphraser. Nathanaël lui demande, mais d'où est-ce que toi tu me connais? Il dit, mais quand tu étais là, sous l'arbre, moi déjà je t'avais vu. Bien aimé, avant même que tu ne viennes dans l'église, est-ce que Dieu t'avait vu? Il t'avait vu, hein? Mais pourquoi dans l'église nous venons des fois en colère? Pourquoi nous venons en étant ennemis des autres? Pourquoi nous venons avec l'argent sale? Pourquoi? Si Dieu m'a vu, pourquoi je ne peux pas veiller et me mettre en ordre? Pourquoi? C'est toute une semence que je suis en train de faire. Je vais récolter. Frères, sœurs, comprenons ces réalités, marchons dans la crainte de Dieu. Il voit. Vous pouvez lire Marc 4, 22, mais Hébreux 4, 13 nous dit ceci. Hébreux 4, 13 dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Nulle créature. Tu peux même mettre ton nom là. « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Mais tout est à nu. Tout. Tu trompes ta femme, il voit. Tu trompes ton mari, il voit. Tu vis dans l'impudicité, il voit. Tu as besoin d'argent, il voit. Tu as besoin du travail, il voit. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu, ce n'est pas parce qu'il n'a pas réagi qu'il n'a pas vu. Il voit. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il voit aujourd'hui, mais demain tu auras à rendre compte. Il voit aujourd'hui, la semence que tu es en train de mettre en terre, et demain, tu auras la reproduction. Qu'est-ce que tu auras comme production? N'oublions pas, je sème une petite chose, je récolte beaucoup. Je me souviens de ce monsieur qui disait, il avait tellement fait souffrir la femme de son père, que lui aussi s'est retrouvé dans la même condition que son père. Il a eu des enfants de son premier mariage, la femme est décédée, puis il s'est remarié, et maintenant c'est son fils qui faisait la même chose sur sa femme. Le monsieur a dit, « Waouh, ce que moi j'ai fait à mon père, c'est ce que moi je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma maison. » Bien-aimé, personne ne peut faire des choses sans récolter. Dans le monde, on a dit, tout se paye ici-bas. Mais nous, les chrétiens, nous avons tendance à oublier. Dieu pardonne. Mais des fois, les conséquences de nos actes, nous les subissons. Donc, faisons attention. Un jour, nous aurons à rendre compte de comment j'ai marché, comment j'ai fait, comment je me suis comporté dans tous les domaines de la vie. Parce que lui voit, il connaît et il peut tout. Il peut tout. Il a les derniers mots sur ta vie. Mais pourquoi encore? Parce que Dieu est le seul capable de nous rémunérer. Il est le seul. La meilleure rémunération que nous pouvons avoir vient de Dieu. Le monde peut te donner de l'argent. Dès que tu as l'argent, si Dieu n'est pas dans l'affaire, les maladies commencent, les situations difficiles et compliquées commencent, et ça va te pousser à commencer à tout perdre. Et Dieu va permettre même que tu aies ce que la Bible dit comme les mains trouées. L'argent entre, ça sort. Mais si tu es rémunéré par Dieu, il bénit ce que tu as et ça te permet de prospérer. Ça te permet de t'épanouir, ça te permet de jouir. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, première chose, et qu'il est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais est-ce que toi tu cherches Dieu? Et si tu les cherches, comment tu les cherches? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste conclure en disant ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce que nous sèmons aujourd'hui, demain nous allons les récolter. C'est pour cette raison, j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous demander à nous tous de s'aimer la bonne sémence. Pour que notre récolte demain soit une récolte qui va faire en sorte que nous puissions relever encore notre tête. Pourquoi? Parce que Dieu nous a visités. Dieu nous a bénis. Et c'est possible avec notre Dieu. Il veut marcher avec nous. Ne nous manquons pas de Dieu. Faisons attention parce que partout où nous sommes, il est là. Et c'est lui qui est capable de nous rémunérer. Amen. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu.
Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
Fidèle à toi, je en prie, à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur,
garde-moi fidèle à toi.
Ô fidèle à toi,
garde-moi.
Ô Seigneur, fidèle
à toi,
garde-moi,
ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Oui, Seigneur, garde chacun de nous fidèle à toi. Ta parole est bonne. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Ta parole nous aiguise. Et cette parole, Seigneur, nous accompagne jusqu'à l'éternité. Tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu n'es pas là pour nous juger, mais tu es là, Seigneur, pour nous montrer la voie. Très souvent, Seigneur, nous oublions ces vérités. Nous sèmons peu, mais nous récoltons beaucoup. Et Seigneur, si nous sèmons pour l'esprit, nous récolterons la vie. Et donne-nous de s'aimer, Seigneur, pour l'esprit, afin de récolter la vie. Si nous sèmons pour la chair, nous allons récolter la corruption, la pourriture. Seigneur, c'est ce que nous ne voulons pas. Bénis cette parole dans chaque cœur. Donne à chacun de nous, Seigneur, de se réveiller et d'attendre ton retour. Ton retour. Parce que tu reviens chercher ton Église. Permets que nous soyons de ceux-là qui seront enlevés d'avec toi. Fais graver cette parole dans nos cœurs et bénis ton instrument qui nous a parlé, Seigneur, de ta part. Au nom de Jésus.